Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en notre studio Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien directeur général du FMI et de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui a été créée en 1991, et gouverneur honoraire de la Banque de France. Jacques Delarosière, qui est l'auteur d'un rapport qui porte désormais son nom, le rapport Larosière sur la supervision financière en Europe. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Madame Bonin.
Juste un petit rappel. En octobre 2008, Monsieur Barroso, au nom de la Commission européenne, vous a chargé de réunir un groupe d'experts pour réfléchir à l'amélioration du système de régulation et de supervision financière en Europe, des banques, des assurances, des marchés au niveau européen. Aujourd'hui, nous sommes à la toute fin de l'année 2009, presque au début de 2010, et nous nous proposons dans cette émission de faire un point d'étape. Alors, le rapport a été rendu le 25 février 2009. Que s'est-il passé durant cette année 2009 ?
Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous venez de le rappeler, le rapport a été remis à la fin du mois de février. La Commission, aussitôt, accepté les grandes lignes de ce rapport et a travaillé sur un texte qu'elle a remis au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est mis d'accord sur ce jeu de texte de la Commission qui avalisait le rapport et les chefs d'État, le 19 juin 2009, ont eux-mêmes avalisé l'accord du Conseil des ministres et approuvé les grandes orientations du rapport telles qu'elles étaient contenues dans le document de la Commission, avec quelques retouches, mais l'ensemble était approuvé. Alors ensuite, il y a eu l'été, et au cours de l'été, la Commission a travaillé sur des textes juridiques qui permettraient la mise en œuvre de ces principes de manière, je dirais, administrative et efficace. Ces textes ont été remis au Conseil des ministres et au Parlement à la fin du mois d'octobre de l'année 2009 et le Conseil des ministres européen vient de décider au tout début de décembre d'avaliser l'essentiel de ces textes avec quelques retouches, mais l'essentiel est approuvé. Et il reste donc maintenant au Parlement européen qui, comme vous le savez, a été l'objet d'une réélection et donc qui n'a pas pu examiner encore ces textes dans sa nouvelle formation. Il faut aussi que le Parlement nomme des commissaires dans les différentes commissions, etc. Et donc là, il y a un travail qui commence, mais qui n'aboutira sans doute que vers le printemps de l'année 2010. Et comme vous le savez, ce sont des textes de codécision où il faut que le Parlement et le Conseil, avec la Commission, acceptent les textes en question. Donc on peut considérer, pour répondre à votre question, que l'année 2009 a été très efficace, puisque en quelques mois, depuis la fin du mois de février jusqu'au mois de décembre, on peut dire que le Conseil des ministres et la Commission ont en fait préparé les textes qui vont être nécessaires pour la mise en œuvre de ces propositions, de ces 31 recommandations que nous avons faites. Il reste maintenant au Parlement, bien entendu, à apporter sa propre touche. Mais ceci va se faire dans les tout prochains mois qui viennent. Donc, quand Balzac disait « un rapport, c'est quelquefois un apport, mais c'est le plus souvent un report », je crois que cette fois-ci, on peut dire qu'on peut être satisfait du processus.
Ça ne pouvait pas aller plus vite en réalité. Il y a tout de même un certain temps d'examen, de mise en œuvre des textes.
Je pense que ça a été vraiment au maximum, oui. Et donc, je suis satisfait de deux aspects. D'une part, la rapidité du processus qui a été grande. Et d'autre part, le fait que le rapport ait été, dans ses très grandes lignes,
approuvé complètement, oui.
Et qui n'a pas été vidé de son sens.
Ces décisions, donc, elles seront appliquées quand le Parlement européen les aura votées. Je suppose qu'elles sont votées. Ça veut venir une application dans quel délai ? Six mois, un an ?
Oui, à mon avis, dès que le Parlement se sera prononcé, je pense que ce sera au cours du printemps de l'année 2010, on commencera à mettre en œuvre les textes, disons, dans la deuxième partie de 2010.
Ce sont des décisions d'application.
Tout à
donc,
fait,
de toute façon, ça sera directement applicable. Alors maintenant, les décisions, elles sont destinées évidemment à apporter des améliorations au système actuel. Mais qu'est-ce qui va changer dans les grandes lignes? Vous dites 31 recommandations, on ne va peut-être pas les examiner toutes. Mais enfin, grosso modo, qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce qui doit changer?
Pour simplifier un peu la réponse à cette question qui est vaste, on peut dire ceci. Le rapport que nous avons remis, et je dis bien nous parce que c'était un comité composé de plusieurs personnalités éminentes, le rapport que nous avons remis avait au fond trois objectifs. Le premier objectif était d'harmoniser la réglementation financière en Europe. C'est un peu un paradoxe, mais il faut le souligner. Bien que l'Europe ait un processus de décision pour les affaires européennes qui soit par définition unifié, puisqu'il s'agit du processus de la directive qui est approuvée par le Conseil après avoir été proposé par la Commission, qui est discutée et approuvée par le Parlement. En principe, quand une directive est là, elle s'applique de la même manière dans tous les États européens. En réalité, les directives en matière financière ont beaucoup fait l'objet d'exceptions nationales, c'est-à-dire la possibilité pour un pays d'interpréter, de modifier, d'apporter tel ou tel complément ou modification même à une directive. Et les États ne se sont pas privés de cette possibilité. Et quand vous regardez non plus les directives elles-mêmes, qui sont écrites en termes assez généraux, mais les textes d'application tels qu'ils sont adoptés sur le plan national, après transposition nationale des directives, vous voyez qu'il y a beaucoup de disparités, et des disparités très importantes. Oui. Par exemple, en matière de définition de fonds propres, il y a pratiquement autant de définitions de fonds propres pour les banques et les compagnies d'assurance qu'il y a de pays, c'est-à-dire 27, si vous voulez. Et donc, en réalité, on a affaire à une très grande disparité dans les textes. Alors, il nous a semblé, et c'est la première orientation du rapport, que si l'on voulait arriver à un marché unique et si on voulait permettre aux banques de s'établir dans plusieurs États avec la facilité qui est inhérente à l'existence d'un marché unique, il fallait que les règles soient les mêmes pour tous.
Ça va donc être un peu plus de contraintes au niveau des banques, un peu plus de règles?
Pas nécessairement au niveau des banques, parce que les contraintes étaient en quelque sorte différenciées pays par pays. Ça va être plus d'unité dans la manière dont les règles sont appliquées et donc plus d'homogénéité dans la manière dont les banques peuvent se concurrencer les unes les autres dans un espace unique. Donc cet objectif d'avoir une règle commune paraît assez évident, mais il est bon de le rappeler. Alors qu'avons-nous proposé pour permettre à ce premier objectif de voir le jour? Eh bien, on a proposé que pour l'avenir, c'est-à-dire que pour les nouvelles directives qui vont sortir au fil des mois et des ans, on n'ait plus recours aux exemptions ou aux exceptions plutôt nationales. Et donc que les transpositions doivent être unifiées. Quant aux stocks de règles qui sont encore très disparates, une partie d'entre elles vont être harmonisées par le renouveau, le renouvellement, les modifications qui sont en cours au niveau des règles de Bâle. Et donc, de nouveaux textes vont sortir et vont modifier le stock de règles. Et pour celles qui ne feront pas l'objet de modifications nouvelles et donc unificatrices, proposons que les plus importantes des disparités soient corrigées. Donc ça, c'était la première ambition du texte. Alors, le deuxième objectif, c'était de mieux coordonner, que cela n'est le cas aujourd'hui, l'action des régulateurs et des superviseurs d'institutions financières, que ce soit des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou des acteurs de marché. Nous avons aujourd'hui autant de superviseurs et de régulateurs qu'il y a de pays. À vrai dire, on en a plus parce que chaque pays a quelquefois plusieurs.
Oui.
Donc, il n'est pas évident d'arriver à des méthodologies, à des manières de faire qui soient communes entre ces différents régulateurs et superviseurs. Et on a certainement fait des progrès depuis quelques années avec ce qu'on appelle le processus Lamfalussie, qui a consisté à créer des comités composés des différents superviseurs nationaux et régulateurs, constituer des comités qui s'efforcent de coordonner leur manière de faire. Mais ces comités dits lamphalusiques, qui ont eu un rôle très important à jouer, sont maintenant arrivés à la limite de leurs possibilités d'action parce qu'ils manquent d'un élément essentiel, c'est le pouvoir de prendre des décisions ayant un caractère contraignant dans certains domaines. Alors nous avons pensé que s'il était souhaitable et réaliste de laisser la supervision quotidienne aux institutions nationales qui la pratiquent, par exemple en France, la commission bancaire ou la CAM pour les assurances, en Angleterre, la FSA, etc. S'il était donc réaliste de laisser la supervision quotidienne des institutions financières dans les mains de ces acteurs nationaux. Je crois qu'il n'y aurait eu aucun accord pour créer un superviseur fédéral.
Ça n'était pas dans vos propositions.
Non, ce n'était pas. Je crois que ça n'aurait pas été réaliste. Et à certains égards, ça n'aurait pas été souhaitable. Donc si nous avons laissé, en quelque sorte, le premier étage de la supervision dans la main des superviseurs nationaux existants, nous avons pensé que si on voulait vraiment créer un système européen en matière de régulation et de supervision qui ait une certaine harmonie, il fallait doter les comités dits lamphalusiques de certains pouvoirs. Alors je vais donner trois exemples de ces pouvoirs que nous avons proposés et qui ont été approuvés. Le premier, c'est de pouvoir fixer des standards, comme on dit en mauvais français, des standards techniques, c'est-à-dire des dispositions très techniques qui permettent aux superviseurs nationaux et aux institutions financières elles-mêmes d'appliquer au jour le jour les obligations réglementaires. Ce n'est pas de la politique, ça, c'est de la technique pure, très, très, très en aval de la rédaction des textes. Et donc, nous avons pensé qu'il serait souhaitable, c'est le premier exemple que je vous donne, de permettre à ces comités que nous allons appeler maintenant des autorités, parce que juridiquement, elles vont avoir des pouvoirs décisionnels. Nous avons pensé qu'il serait bon que ces autorités, dont nous avons fixé le nombre à trois, parce que c'est la structure habituelle, une pour les banques, une pour les compagnies d'assurance, une pour les marchés, que ces autorités pourraient déterminer les standards techniques de manière contraignante. Ça, c'est le premier exemple. Il y a un deuxième exemple. En cas de différence d'interprétation entre deux régulateurs ou deux superviseurs sur la manière de comprendre un texte, en dépit de ce que j'ai dit sur l'harmonisation des textes, mais vous pouvez au niveau de l'application avoir des vues différentes sur la manière de le comprendre. Nous avons pensé qu'il serait sage que, dans le même esprit que je viens d'indiquer pour les standards techniques, le comité compétent, que ce soit celui des banques, des assurances ou des marchés, puisse déterminer quelle est la bonne interprétation et en faire de cette interprétation-là la référence communautaire. Et enfin, troisième exemple, il peut arriver que vous ayez une divergence entre deux superviseurs ou trois ou quatre superviseurs concernant une banque transfrontalière, c'est-à-dire une banque qui est établie dans plusieurs États de l'Union, mais qui a son siège dans un des États. Il peut y avoir une divergence de vue entre tel ou tel superviseur sur, par exemple, la manière de localiser tel ou tel montant de fonds propres et de comprendre donc les dispositions des textes en vigueur en les appliquant à un groupe. Et dans ce cas-là, nous avons pensé que si cette divergence de vue ne peut pas se résoudre par, je dirais, le raisonnement ou la persuasion, alors il fallait donner la possibilité à cette autorité dont je viens de parler de régler le différend. Sur ce point-là, la question est encore débattue. Les accords qui se sont manifestés au tout début décembre n'ont pas tout à fait tranché la matière, comme je viens de le dire et comme nous l'avions suggéré dans le rapport. Il y aura bien entendu un préjugé favorable à la décision entre guillemets que prendra l'autorité dans ce cas-là, mais l'autorité ne pourra pas directement imposer à une institution financière située dans un pays donné, ne pourra pas faire une injonction directe qui obligerait cette institution-là à appliquer la réglementation telle que décidée par l'autorité. Il faut que l'injonction s'adresse à l'autorité national, local, c'est donc plus un droit direct jusque dans le cœur d'une institution particulière, mais c'est une communication de cette recommandation et de la manière dont le litige aura été tranché par l'autorité, mais c'est une communication à l'autorité nationale. Et il peut se faire que l'autorité nationale demeure non convaincue de la sagesse de l'autorité sur le sujet en question. Et dans ce cas-là, c'est ça qui est une faiblesse par rapport au rapport que nous avions rédigé. Dans ce cas-là, le seul recours pour l'autorité, c'est d'engager une procédure de caractère judiciaire qu'on engage lorsque une décision communautaire, car ça sera une décision communautaire, celle qui n'aura pas été avalisée par un État particulier dans l'exemple que je cite. Donc, il faudra prendre les voies de recours qui peuvent être longues, et ceci n'est pas aussi satisfaisant à mes yeux que le droit de recours direct, qui devrait exister si on voulait être très efficace et donner à l'autorité beaucoup de pouvoir. Donc ça, c'est un point où le rapport a été un peu,
si je puis dire,
oui, par la négociation. Mais enfin, ce n'est pas un point absolument central. Et encore une fois, le Parlement n'a pas dit son dernier mot.
Alors, vous nous avez donc
annoncé trois objectifs. Oui, voilà.
Donc, alors, le troisième objectif, oui, après harmonisation et coordination.
Vous faites bien, Madame Renard, de me rappeler au fil conducteur. Alors, le troisième objectif, et avant d'en venir au troisième, je voulais dire que le deuxième, qui consiste à muscler ces autorités, est très lié au premier. Parce que si nous avons eu beaucoup de disparités dans les réglementations, ça c'était mon premier point, ça nous aidera d'avoir une autorité qui pourra fixer les standards techniques, fixer les interprétations, le cas échéant, donner des injonctions à des autorités nationales pour que telle ou telle interprétation soit effectivement appliquée. Donc, si vous voulez, le 1 et le 2 vont en quelque sorte de pair. Alors, le 3 est différent. Le troisième objectif consiste à essayer de mieux faire en matière de prévention des risques de système. Vous savez que nous avons traversé une terrible crise systémique. Le mot systémique est un peu prétentieux peut-être, mais il dit une chose très simple.
Il dit oui, c'est le système qui...
Il dit c'est le système
qui n'est pas bon.
C'est le système qui peut être attaqué, même miné dans son fonctionnement même, par la survenance d'un certain nombre de problèmes ou de déviations.
On n'a pas vu venir assez tôt ?
On n'a pas vu venir assez tôt et on n'a surtout pas vu l'immensité du risque qui planait sur le système. Alors, nous nous sommes dit, dans cette commission dont je viens de parler, que c'était très bien d'avoir de meilleurs règlements, d'assurer une plus efficace surveillance de chaque établissement, mais nous nous sommes dit aussi qu'il fallait aller au-delà. En effet, l'addition de supervision, même correctement assurée sur des institutions financières par des superviseurs qualifiés, l'addition de ces supervisions en quelque sorte verticales sur chaque établissement spécifique n'aboutit pas à la stabilité du système. Pourquoi ? Parce que les superviseurs ont des mandats très précis. Ils sont chargés de vérifier, par exemple, le montant des fonds propres face aux risques, la liquidité d'une banque, etc. Mais ils ne sont pas chargés de voir s'il n'y a pas des bulles d'actifs qui se manifestent, s'il n'y a pas une explosion du crédit, s'il n'y a pas une politique monétaire trop laxiste qui facilite, si vous voulez, qui encourage
des comportements. Donc ils ne peuvent pas tirer une sonnette d'alarme ?
Alors, ils n'ont pas tiré les sonnettes d'alarme. Ils ont, dans leurs rapports, que ce soit ceux de l'OCDE, du FMI, de la BRI ou des banques centrales qui faisaient des analyses de caractère systémique, ils ont certes dit l'essentiel de ce qui n'allait pas et des dangers qui s'accumulaient à l'horizon, mais ils n'ont pas, comme vous l'avez très justement dit, tiré la sonnette d'alarme au sens où on tire la sonnette d'alarme dans un train qui va dérailler. Et donc nous avons pensé que ce serait une bonne chose pour l'Europe et plus tard pour le monde de réunir ceux qui sont le plus à même de connaître les risques émergents de système, c'est-à-dire les banquiers centraux de l'Union européenne. Ils sont 27 et ça comprend ceux qui ne participent pas à l'euro, les Anglais, ceux des Scandinaves qui ne sont pas dans l'euro, etc. Plus les superviseurs, c'est-à-dire ces autorités qui sont proches des institutions financières.
De les réunir dans un même conseil.
Voilà, de les réunir dans un même conseil qu'on appelle le Conseil du risque systémique. Et ce conseil ne pourra pas s'en sortir simplement avec des rapports de caractère littéraire et généraux, comme ça a été le cas dans le passé, mais il devra et c'est un devoir en quelque sorte constitutif de son être, il devra formuler des recommandations pour que les choses qui sont en train d'assombrir l'horizon n'éclatent pas en orage sinistre. Et pour cela, ils peuvent s'adresser à des gouvernements, s'il s'agit de politiques budgétaires trop dispendieuses, il pourra s'adresser à des banques centrales, si elles laissent filer le crédit de manière trop dangereuse, ils pourront...
Ils surveillent, quoi. C'est
oui,
une surveillance.
C'est l'homme au sommet du mât, voilà, qui regarde s'il y a des écueils et qui agit en conséquence. Alors ça, c'est une disposition qui n'existait pas dans les propositions, par exemple, américaines. Ils avaient quelque chose qui ressemblait un peu à un conseil du risque systémique, mais il était uniquement axé sur des problèmes qui peuvent se passer à l'intérieur d'une institution financière. Ils ne regardaient pas l'horizon général. Or, à mon sens, ce qui est important, c'est justement regarder l'horizon général et en particulier de surveiller l'évolution des grandeurs de crédit. Évolution qui a été, je dois le dire, complètement négligée par les banques centrales au cours des 10 dernières années. Or, c'est une donnée essentielle de la dangerosité d'un système. S'il y a trop de crédits qui s'accumulent, il est clair que le jour où le cycle se retourne et où il est plus difficile de rembourser ses crédits, les choses se détériorent pour les institutions financières.
Est-ce que cela renforce le rôle de la Banque Centrale Européenne ?
Oui, je pense que ça le renforce, puisque au-delà de son rôle essentiel qui est d'assurer la stabilité monétaire au sein de l'Union, et de la zone euro, si vous voulez, là, il aura une autre mission très spécifique qui sera de concourir à la stabilité du système. Et ça, il le fera pas seulement dans le cadre de l'euro, comme je l'ai expliqué, mais dans le cadre de toutes les banques centrales de l'Europe, puisque, comme vous le savez, les banques centrales non appartenant à l'euro, comme par exemple la Banque d'Angleterre ou la Banque nationale de Suède, participe déjà à ce qu'on appelle le système européen des banques centrales, qui regroupe tout le monde, tous les Européens de l'Union. Et c'est à l'intérieur de ce cadre, et sous l'égide, bien sûr, de la BCE, parce que c'est tout de même l'organisme qui est le mieux placé pour le faire, et sous l'égide de la BCE, que seront examinées ces questions de risque systémique. Je suis assez satisfait de voir que, après la sortie de notre rapport et l'adoption de ce rapport par les politiques, le groupe des 20, qui est un peu maintenant l'organe décisionnel central, même s'il est informel, du monde de la communauté financière, le groupe des 20 a mis l'accent dans son dernier communiqué à Pittsburgh, il y a quelques mois, sur la nécessité précisément de surveiller le système dans ses développements et de veiller à ce que les déséquilibres de balance des paiements, qui ont été une des sources de déséquilibre les plus importantes, soient détectés, qu'on agisse sur ces grandeurs, sur ces évolutions, etc. Et donc c'est un peu retrouver l'idée du risque systémique, mais à un échelon global, car il faut en effet globaliser cette vue européenne que je viens de signaler.
On va en parler dans un instant. Donc, nous allons continuer avec Jacques Delarosière cet éclairage sur la supervision et la régulation financière, non seulement en Europe, comme on vient de faire, mais dans un court instant sur le monde. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Retrouvez sur Canal Académie nos émissions en compagnie des académiciens professeurs au Collège de France. Le paléontologue Yves Coppens, la juriste Mireille Delmas-Marty, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Quelques noms d'une longue liste dont vous pouvez télécharger librement les émissions sur canalacademie.com.
Nous retrouvons Jacques Delarosière dans notre studio pour évoquer le bilan de ses propositions du rapport qui porte désormais son nom, Larosière. Nous avons examiné ce qui s'est passé durant l'année 2009 et puis maintenant ce qui va se passer pendant l'année 2010. Justement, au niveau mondial, on a beaucoup parlé du rôle d'un conseil de surveillance pour l'Europe, mais au niveau mondial, si tout n'est pas harmonisé, on ne va pas se battre tout seul dans notre coin.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire cela. Nous vivons encore dans un monde financier qui est globalisé. Les capitaux circulent librement et les transmissions d'ordre se font à la vitesse de la lumière par les signaux électroniques. Donc, nous vivons dans un monde qui est complètement unifié du point de vue de l'exécution des opérations et du choix des investissements. Alors, il semble en effet logique, puisque nous vivons dans un monde financier qui est globalisé, nous ayons des systèmes d'alerte qui soient eux-mêmes globalisés.
Le monde est prêt à cela? Les autres pays sont prêts à admettre cette idée?
Écoutez, le dernier communiqué du G20, du groupe des 20, qui est un peu l'instance, comme je le disais, de décision maintenant mondiale, a énoncé qu'il fallait maintenant créer ce qu'on appelle un cadre, un framework en anglais, qui permettrait une croissance à la fois forte et soutenable dans le monde, qui devrait s'attaquer aux problèmes de déséquilibre macroéconomique qui, comme on le sait, ont été en grande partie à l'origine de la crise que nous venons de vivre. Alors c'est assez important que les États-Unis et la Chine, qui sont les deux sources des grands déséquilibres macroéconomiques que nous connaissons, les États-Unis parce qu'ils sont en déficit structurel de balance des paiements et qu'ils se font financer par des pays émergents, et la Chine parce que c'est un des pays émergents qui est le plus en excédent de balance des paiements courantes et qui finance par les achats de dollars auxquels elle procède de manière massive, qui finance le déficit de la balance des paiements des États-Unis. Or, ce phénomène est d'une certaine manière créateur de déséquilibre, parce que plus vous achetez une devise nationale, en particulier le dollar, lorsqu'il s'agit de la Chine, plus vous créez de la liquidité. Et plus on crée de la liquidité, plus le système a tendance à s'endetter, plus les taux d'intérêt ont tendance à être bas, et plus le système dévie vers trop de crédit, trop de dettes. Et donc, il est important que l'excédent de la Chine et le déficit de la balance des paiements américaine soient réduits par des politiques économiques qui soient convergentes, qui soient adaptées. Et il n'est donc pas sans intérêt de noter que la Chine et les États-Unis ont signé le communiqué du G20 à Pittsburgh et que ce communiqué dit exactement cela. Alors, il ne parle pas de la création d'un conseil mondial du risque systémique, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les puissances qui sont comprises dans le G20 agissent pour que la macroéconomie mondiale soit moins encourageante de déviation et d'accumulation de dettes. Il dit cela, et il dit que pour les aider, les ministres des Finances du G20 dans cette tâche de meilleur équilibre macroéconomique, ils doivent recourir au service du Fonds monétaire international dont, vous le savez, c'est une des tâches que de pratiquer la surveillance multilatérale du système. Donc, pour répondre à votre question, quand vous me dites est-ce que c'est plausible de voir cela à l'échelon global, je dis il y a une petite lueur d'espoir. Si le passé est un guide pour l'avenir, on n'aurait pas beaucoup de raisons d'être optimiste, parce que l'idée de la surveillance multilatérale et d'un meilleur équilibre macroéconomique mondial est déjà dans les statuts du Fonds monétaire international. C'est une des tâches de cet organisme. Et il faut bien le dire, ni les États-Unis, ni la Chine, ni d'autres n'ont vraiment encouragé le Fonds monétaire à pratiquer cette surveillance et l'en ont plutôt dissuadé. Ce qui est un peu source d'optimisme dans le communiqué dont je viens de parler, c'est que cette fois-ci, le G20 met le doigt sur ce problème et, en quelque sorte, s'offre au Fonds monétaire international comme un sujet de travail dans le cadre de cette surveillance dite multilatérale. Alors, acceptons-en l'augure. Une bonne nouvelle ne doit pas être entachée par le fait que dans le passé, ça ne s'est pas produit de manière satisfaisante. Donc je pense que c'est quand même un progrès que l'on ait inscrit cela dans le communiqué. Encore faut-il, bien entendu, que de l'idée générale que je viens d'énoncer au cas particulier, on ait une feuille de route qui nous amène à faire des recommandations. Et ces recommandations ne pourront que tendre à modifier certains comportements ou certaines données, si vous voulez, de caractère national. Et donc, le vrai problème, c'est le problème du fonctionnement d'un système multilatéral financier avec des États souverains. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes arrivés à un point où les États souverains, et en particulier les grands États souverains, parce que les petits sont bien obligés de s'adapter aux circonstances, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais les grands, est-ce qu'ils sont décidés, prêts, politiquement.
À déléguer, d'une certaine
façon.
Ah
oui, et à modifier le sens d'une politique nationale, interne, domestique, comme ils disent, en fonction d'impératifs de caractère global, c'est-à-dire de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif qu'il y a à modifier sur tel ou tel point une politique nationale. Alors, c'est un grand pas.
Oui, mais c'est un grand défi parce qu'évidemment, on s'imagine que chaque pays défend d'abord ses intérêts nationaux.
Oui.
Mais en même temps, on voit bien que nous sommes tous liés.
Nous sommes tous liés. Et ce sur quoi il faut, à mon avis, appuyer l'argumentation, c'est que certes, les intérêts nationaux, a priori, objecteraient cette politique que je viens d'énoncer. Mais la gravité, si vous voulez, des conséquences collatérales de ce qui peut se passer si on fait un peu n'importe quoi à la maison est telle que, finalement, c'est peut-être dans l'intérêt bien compris des nations elles-mêmes que de se restreindre sur tel ou tel point pour avoir un système qui fonctionne mieux. Et donc, il y a un moment où l'intérêt national et l'intérêt collectif peuvent se rejoindre, et même dans l'état d'esprit des politiciens.
C'est un des enseignements de cette crise que nous avons vécue, mais elle n'est pas tout à fait terminée, si j'en crois la communication de l'Académie des sciences morales et politiques, communication qu'on peut écouter sur Canal Académie, sur ce sujet, animée par vous-même, M. de la Rosière, mais aussi par M. Michel Pébreau, M. Collomb. Donc c'est un des enseignements de la crise. Il faut parfois voir l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt uniquement national.
Je crois. Il y a une communication qui a été autour de ce thème, dans le cadre que vous venez de rappeler. C'est celle de M. Cottis, qui est l'ancien patron des services économiques de l'OCDE. C'était son thème. Je l'ai également évoqué dans mon intervention. Je pense que le rôle du Fonds monétaire international va être très important. Je souhaite qu'il saisisse l'occasion qui lui est offerte par la disposition d'esprit que j'ai indiquée au G20. C'est très important qu'il y ait beaucoup de leadership dans cette affaire. Nous n'avons pas abordé dans notre conversation, qui a été plutôt axée sur l'organisation d'une meilleure procédure, en somme, de supervision et de régulation en Europe et dans le monde, nous n'avons pas abordé certains problèmes de fond qui sont en train d'être examinés et qui sont la révision de ce qu'on appelle les accords de Bâle II, c'est-à-dire des obligations qui s'imposent aux institutions financières en matière de fonds propres, en matière de liquidités. Le comité dit de Bâle, parce qu'il se réunit auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle, mais il comprend des régulateurs maintenant du monde entier. Ce comité de Bâle est donc en train de travailler, à l'heure où nous parlons, sur un rajeunissement et un raffermissement des obligations qui s'imposent aux institutions financières. Il faut comprendre que ce travail est tout à fait fondamental parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans la réglementation telle qu'elle s'appliquait et telle qu'elle s'applique d'ailleurs encore. Il faut certainement revoir les définitions de fonds propres. Il faut s'assurer qu'on puisse désormais mettre de côté, dans les périodes fastes, des réserves pour les périodes plus difficiles. Il faut s'assurer que la liquidité des institutions financières est mieux assurée qu'elle ne l'a été, car en fait, dans les difficultés qui se sont manifestées, c'est surtout la liquidité qui est apparue comme le problème, plus que la solvabilité. Il y a donc toute une série de dispositions qui sont en train d'être étudiées pour renforcer le système et éviter le retour aux errements que nous avons connus.
On va les étudier jusqu'à quand ?
Alors,
il y a une date
Oui, il y a une date. Le groupe des 20 a donné au régulateur dit de Bâle jusqu'à la fin de l'année 2010 pour fixer ces dispositions et jusqu'à la fin de l'année 2012 pour qu'elles soient mises en application dans les différents États. Et donc, si vous me le permettez, je reviendrai peut-être au cours de l'année 2010 pour vous parler de l'état d'avancement de cette deuxième phase de travaux qui est différente de la nôtre, qui était plus organisationnelle.
Et, la régulation des banques.
Pour parler de la régulation. Oui.
Mais voilà. Volontiers, donc nous prendrons une date et nous vous retrouverons avec plaisir. Merci Jacques Delarosière de nous avoir éclairé sur ce point difficile pour les non-initiés, mais vous avez un talent pédagogique qui fait que tout le monde peut comprendre tous ces événements et toutes ces difficultés financières que nous devons aborder. Je voudrais signaler qu'il existe une autre émission avec vous sur ce rapport qui est disponible sur le site de Canal Academy, que notre radio propose aussi plusieurs émissions avec vous, des interviews, des chroniques, des communications académiques en français et en anglais, et qu'il suffit de taper sur notre moteur de recherche le nom de notre invité, Jacques Delarosière, que je remercie.
Merci.